Merci Pascal. Alors je suis très heureux, merci d'être tous ici présents. Et j'ai une pensée pour tous ceux qui sont absents, pour la vague. Donc on les bénit tous, parce que voilà, ils sont partis pour quelque chose de grand, pour l'œuvre de Dieu. Et voilà, on les bénit tous et que leur action soit vraiment à l'image de Dieu. Et voilà. Et voilà, je voudrais aussi remercier tous ceux qui sont absents, mais qu'on a dans notre cœur, qu'on porte. Je pense à Odette que j'ai vue cette semaine, et elle a eu une très grande joie de me voir. Et elle vous bénit tous. Voilà. Bon, alors on peut lancer la première diapo. Je vais utiliser un petit peu PowerPoint. Je me lance. Voilà. Alors. Ah, c'est super, hein. Alors, bon, vous le savez, je tire toujours mes messages de livres, parce que, voilà, c'est ma façon de fonctionner. Et je prends donc Claude Hood, qui a écrit un livre « Découvrez, développez votre potentiel ». Et moi, j'en suis à mon quatrième message, et qui sera divisé en deux. Et aujourd'hui, c'est la réponse de notre potentiel. Donc, c'est ce livre-là, hein. Voilà. La réponse de notre potentiel. Je me suis peut-être trompé. Alors, il faut que je mette mes lunettes. Donc, les fois précédentes, dans les messages précédents, nous avions vu que le potentiel que Dieu veut nous voir réaliser passe par l'acceptation d'avoir plus de Jésus en nous. Je fais un petit rappel. Il nous faut demander à Jésus d'être enseigné et comment s'emparer de notre potentiel, à se rappeler ce que Dieu a fait pour nous, demander à Jésus à réaliser tout le potentiel que représente notre conversion, à avoir confiance, à croire et saisir la promesse que Jésus achèvera parfaitement ce qu'il a commencé en nous, à notre abandon à Jésus que nous avons vu dans l'expression « mourir à soi-même ». Nous avons une responsabilité quand nous attisons un feu de division là où Jésus nous appelle à incarner et à combattre pour l'unité. Ah, j'ai pas mis en route. Hop, voilà. L'unité que j'ai voulu représenter par un arbre, par l'olivier. Il nous faut marcher avec intégrité chaque jour, même quand personne ne nous voit. Nous avons une mission, par nos témoignages de vie, gagner des âmes pour Jésus et pour Dieu le Père. Soyons à l'écoute du Saint-Esprit pour faire la volonté du Père, avoir un même sentiment, un même amour et une même pensée. Donc aujourd'hui, nous allons voir la réponse de notre potentiel à travers 5 domaines. Le premier, c'est la référence de notre appel. La deuxième, le renouvellement de notre appel. En 3, les risques de notre appel. La reconnaissance de notre appel. Et enfin, la résilience de notre appel. Waouh, ça fait beaucoup! Et quand j'ai commencé mon message, je savais pas où j'allais, hein. Eh bien, nous verrons aujourd'hui que le premier point, la référence de notre appel. Trop de choses à voir. L'épître aux Philippiens est un trésor pour nous aujourd'hui. Il offre un portrait des différents aspects du potentiel que nous sommes tous appelés à développer en tant que croyants. Des thèmes allant de la gratitude à la confiance en Dieu, à la reconnaissance, à l'intégrité, à la générosité, au don de soi, à l'humilité, à la paix, à la joie, au pardon ou encore à l'unité. Je crois que chacun a reçu un appel unique de la part de Dieu. Je crois aussi que nous sommes avant tout appelés à y répondre. Nous allons commencer donc par la référence à notre appel. Et je vous invite à prendre votre Bible, Philippiens 2, versets 3 à 9. Philippiens 2, versets 3 à 9. Ne faites rien par esprit de rivalité ou par désir d'une gloire sans valeur, mais avec humilité, considérez les autres comme supérieurs à vous-même. Que chacun de vous, au lieu de regarder à ses propres intérêts, regarde aussi à ceux des autres. Que votre attitude soit identique à celle de Jésus-Christ. Lui, qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains, reconnu comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. C'est aussi pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Ici, Paul nous donne une définition de ce que signifie réellement répondre à l'appel de Dieu. Cette définition commence avec force. Ne faites rien par esprit de parti pris ou de vaine gloire, mais que l'humilité vous fasse regarder les autres comme étant au-dessus de vous-même. Paul commence en disant: arrêtez d'exercer ou de vouloir exercer le ministère avec un esprit de parti pris, d'orgueil, de vanité, d'arrogance, d'égoïsme, d'égocentrisme, de rivalité, de comparaison et d'élévation. L'expression « agir par l'esprit de parti pris » vient du grec ancien « eritheia » et se traduit par « esprit de rivalité ». La mentalité « eritheia », c'est ce penchant humain qui aspire à nous élever au-dessus des autres. C'est être perpétuellement en rivalité, en compétition et en comparaison avec d'autres. Il suffit de regarder aujourd'hui, à l'école, ça commence dès la maternelle. Dans le sport, le monde du travail, les affaires, partout règne la compétition. Paul continue en confrontant l'esprit de vaine gloire, ce système habituel de pensée qui tend non seulement à vouloir être perçu comme faisant mieux que l'autre, mais nous conduit à la jalousie, à l'envie, face au succès et à l'avancement d'autrui. Nous devons lutter contre cet esprit de compétition dans tous les domaines de notre vie. Je reviens sur Paul. Il faut comprendre que Paul, de sa prison à Rome, écrit une lettre d'encouragement et de conseil pour l'église de Philippe. Rappelez-vous, il y a urgence pour l'apôtre, car à tout moment, il peut être tué et mis à mort. Et Paul ne va pas par quatre chemins. Il est direct, précis, pertinent. Il dénonce l'esprit de compétition et de jalousie au sein même de l'église de Philippe. Qu'en est-il pour nous ? Je vous avais montré la dernière fois cet arbre du christianisme, et on voit qu'à chaque nœud ici, une division, voilà. Un autre arbre, pareil, des divisions, avec des mots qui sont forts, le grand schisme, la réforme, enfin toutes des choses qui, voilà, on se divise. Et là, j'ai trouvé un autre arbre. Et voilà, c'est la descendance d'Abraham. Abraham, Moïse, Jésus. Et là, on commence à se diviser. L'islam, les juifs, le judaïsme, les orthodoxes. Voilà. Bon, alors c'est très, très, très schématique. Mais la fois dernière, je vous avais parlé d'Éphraïm. Et on m'avait dit, oui, il y a 10 tribus. Alors en effet, il y a 10 tribus. Et je voudrais revenir sur ces 10 tribus parce que c'est important pour l'arbre, c'est important pour l'olivier franc et nous-mêmes qui allons se raccrocher à cet olivier. Donc les 10 tribus de la maison d'Israël est composée de 10 tribus, oui. Donc Ruben, Siméon, Issachar, Zabulon, Dan, Nephtali, Gad, Aser et Joseph. Et c'est un moment où il y a déjà une division, parce qu'il y a le royaume du nord et le royaume du sud. Dans le royaume du nord, on retrouve ces 10 tribus. Et ils vont être déportés par le roi assyrien Salmanassar en 721 avant Jésus-Christ. Et ensuite, ils vont être dispersés sur toute la surface de la terre. On regarde maintenant, moi je vais vous lire, le Genèse 48, 16. Que l'ange qui m'a délivré... Alors c'est Jacob qui parle à son fils Isaac. Il va transmettre quelque chose d'important. Il va donner la bénédiction à Éphraïm et puis à Manassé. Que l'ange qui m'a délivré de tout mal bénisse ses enfants, qu'ils soient appelés du nom de mon nom et du nom de mes pères, Abraham et Isaac, et qu'ils multiplient en abondance au milieu du pays. Alors vous savez que je fais un peu de grec avec Daniel Sten, et je suis d'hébreu, je me trompe, c'est d'hébreu. Oui. On fait un petit peu de grec de temps en temps, parce que voilà, dans la parole, ça nous arrive. Mais c'est surtout d'hébreu que je parle. Et donc, quand on regarde ici le mot pays, on parle de Eretz. Le mot hébreu, Eretz. Et qui veut dire terre, territoire, sol. La première définition, c'est terre entière, opposée à une partie, opposée aux cieux, les habitants de la terre. La deuxième définition, c'est territoire, contrée, région, terrain, Israël, le sol, surface de la terre. Et Daniel nous a dit, par rapport à ce verset, que beaucoup de traductions étaient pas tout à fait juste, parce qu'on parle justement de la terre d'Israël, du pays. Mais il n'en est rien. Quand dans la Bible, on veut vraiment préciser que c'est la terre d'Israël, on dit Eret Israël. Alors que là, c'est Eret, tout seul. Ce qui signifierait plutôt qu'on parle du monde entier. On va prendre la version Chouraki. Le messager qui me rachète de tout mal bénit les jeunes. Mon nom sera crié sur eux. Vous pensez à Israël. Regardez Israël aujourd'hui. On crie Israël par le nom du pays. Et le nom de mes pères, Abraham et Isaac, ils poissonneront multiples au sein de la terre. Il faut savoir que Chouraki est presque en mot à mot avec la Torah. Poissonner, ça n'existe pas, c'est un verbe qui n'existe pas, mais on peut bien imaginer que au sein de la terre, c'est-à-dire au niveau mondial, ils vont poissonner. Ils vont devenir multiples au sein de la terre. Je vais revenir au message. L'avertissement de Paul nous concerne dans notre manque de compréhension, notre éloignement ou notre endurcissement face à la révélation de l'amour inconditionnel de Dieu, de notre valeur absolue et inestimable pour lui, nous pouvons facilement tomber ou retomber dans nos insécurités qui conduisent à l'envie, à la jalousie, à la petitesse en parole, en action ou dans le secret dans nos cœurs. Paul parle de regarder les autres comme étant au-dessus de nous-mêmes. Il y a là quelque chose à comprendre. On pense souvent que cela consiste à revêtir une forme de complexe d'infériorité où tous sont supérieurs et où nous ne valons rien ou pas grand-chose. Une espèce de piété, de fausse humilité. Ce n'est pas la pensée de Paul. Il s'agit plutôt d'accorder davantage d'attention et d'intérêt aux autres. Il nous faut avoir une passion et une priorité pour les autres. Il y a là un apprentissage de vie où nous considérons et grandissons dans notre capacité de placer sous la direction de Dieu les intérêts des autres avant les nôtres. Nous sommes appelés à être des serviteurs. Nous devons assumer nos fonctions et responsabilités, être des leaders, des chefs d'entreprise, des patrons ou responsables dans ou hors l'Église, car Dieu, qui nous donne les capacités de le faire, et nous pouvons, nous devons lui rendre honneur en exerçant pleinement toutes ses compétences. Dieu nous défie simplement à une attitude de service, d'humilité, de préoccupation, du progrès, des intérêts, des besoins et du développement des personnes qui nous entourent. Aujourd'hui, dans le monde chrétien, c'est un constat. Il y a des talents, des témoignages et même des triomphes pour Dieu qui sont ternis par des attitudes égocentriques, je veux dire des personnes qui ne pensent qu'à eux, plutôt que d'avoir un cœur et des attitudes venant de Jésus. Paul avertit qu'il est possible d'exercer le ministère avec talent, expertise et expérience telles que la musique, la prédication ou le leadership, tout en faisant totalement abstraction de l'appel premier d'un chrétien qui est de servir les autres. La question est donc, comment puis-je accomplir, protéger et multiplier mon appel de serviteur? Que dit Paul? Ayez en vous ce sentiment, les sentiments qui étaient en Jésus, en Jésus-Christ. La référence de notre appel n'est pas la tradition religieuse, ce n'est pas un mouvement, une dénomination d'église ou un leader charismatique. La référence de notre appel aspire à cultiver les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Oui, ses sentiments, son modèle, son cœur, ses intérêts, lesquels étaient tous et toujours dirigés parfaitement vers les autres. Jésus est la référence qui doit être au centre de tout ce que nous faisons et de qui nous sommes. Nous sommes imparfaits, mais nous désirons poursuivre cette transformation et cette évolution vers le cœur de Christ avec l'aide de l'Esprit Saint. Demandons à Dieu de nous rendre aptes au quotidien de discerner que chaque personne que nous rencontrons et côtoyons est une âme précieuse devant lui. La Bible nous dit que chaque homme, chaque femme est à l'image de Dieu. Il nous faut regarder son prochain, l'image de Dieu. Souvent, ce prochain ignore qu'il est à l'image de Dieu. Moi-même, dans ma vie de tous les jours, je n'ai pas conscience que je suis le reflet de Dieu. Cependant, quand nous rencontrons notre prochain, il nous faut revêtir les sentiments de Jésus-Christ et regarder cette image en en prenant soin. Nous ignorons ce que Dieu a mis comme potentiel dans le cœur de ce prochain. Je vais prendre le témoignage de William Wirtin Borden, qui est né en 1887 et qui est mort en 1913. Donc c'est un monsieur qui est, voilà, siècle dernier. William Wirtin Borden, je ne suis pas un anglais, hein. Ah non, je ne répéterai pas. Alors, je vais l'appeler William Borden, c'est plus simple pour moi. Alors, qui est cet homme? C'est un philanthrope, un millionnaire, missionnaire chrétien. William Borden est né dans une famille riche de Chicago. À la fin de l'école secondaire, deux événements changent le cours de sa vie. Le premier est sa rencontre avec le message de l'Évangile après une prédication de Ruben Archetoré. C'était un prédicateur très renommé à l'époque et qui a vraiment apporté un message de Christ dans le monde entier. À partir de ce moment, la prière et l'étude de la Bible deviennent les caractéristiques de sa vie. À 16 ans, après avoir été diplômé de la Hill School à Popstone, en Pennsylvanie, c'est le deuxième événement. Ses parents lui font don d'un voyage chaperonné autour du monde, au cours desquels il a développé le désir de devenir missionnaire étranger. Il faut dire que son père n'était pas d'accord. À Londres, encore une fois, sous la prédication de Toré, qui tenait là des réunions, Borden a rendu sa vie pour le service chrétien. De retour, Borden rentre à l'université de Yale. Là, Borden commence à former des groupes de prière quotidiens et en l'espace de 2 ans, atteigne l'ensemble de l'université. Borden a une personnalité charismatique, il est sociable, athlétique, amusant, mais aussi un leader naturel, intense et travailleur. Il aura une brève carrière. Après avoir été diplômé de Yale en 1909, Borden a fréquenté le Princeton Theological Seminary avant d'obtenir son diplôme en 1912. Un professeur écrit « Son jugement était si infaillible et si mûr que j'ai toujours oublié qu'il y avait une telle différence entre nos âges. Sa consécration complète et sa dévotion au Christ étaient une révélation pour moi et sa confiance dans la prière une inspiration continuelle. » Pendant ce temps, la réputation de Borden est telle qu'il devient un membre du conseil de l'Institut biblique national de New York. Et à un moment donné, il prend temporairement en charge tout le ministère, y compris la gestion du bureau, la supervision de la formation pratique des étudiants et 4 missions de sauvetage. Il est également devenu le directeur de Moby Bible Institute à l'âge de 22 ans et un membre du conseil du Nord américain de la Chine Island Mission. Le projet de Borden, il en a un, c'est de devenir missionnaire auprès des musulmans au nord-ouest de la Chine. Et pour ce faire, il décide d'abord d'étudier l'islam et l'arabe au Caire. En mars 1913, il contracte une méningite cérébrale et meurt quelques semaines plus tard. Il a 25 ans. C'est jeune. Trop jeune. Borden est entré dans un cimetière américain au Caire et sur sa tombe, il est inscrit « En dehors de la foi en Christ, il n'y a pas d'explication d'une telle vie. » Dans les semaines qui suivirent, les circonstances de la mort de Borden se répandirent à travers les États-Unis et firent la une des journaux pendant des mois. Pendant plusieurs années, des milliers de jeunes à travers le pays, touchés et inspirés par le témoignage de vie de Borden, décidèrent de répondre à leur tour à l'appel de Dieu et partir comme missionnaires, humanitaires ou de servir Dieu là où ils étaient. Certains historiens estiment globalement que plus d'un million de jeunes ont été inspirés à répondre à l'appel vocationnel de Dieu. Alors voilà, nous aussi, nous pouvons avoir une influence sur notre entourage, au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Nous ne sommes pas tous des William Borden, mais nous pouvons tous revenir à la référence de notre appel. Dans des gestes tout simples, au quotidien, dans des actes de générosité, d'engagement d'aide élémentaire envers des gens qui en ont besoin, en priant, en servant, en aimant. Là où nous sommes, une personne à la fois. Je vous encourage, je nous encourage à revêtir les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Cultivons chaque jour un sens de joie et de privilège de pouvoir contribuer à la cause éternelle de cette terre, celle du royaume de Dieu, de l'évangile de Christ qui change les cœurs et les vies. Pouvons-nous imaginer l'impact spirituel exponentiel et la multiplication de bénédictions qui en résulterait si chaque chrétien était stimulé par cette perspective et animé de cette passion? Demandons à Dieu de faire grandir en nous les sentiments qui sont en Jésus-Christ. Je reviens à Paul, qui dans sa lettre à l'église de Philippe choisit de personnifier ce que signifie répondre à l'appel de Dieu. On va prendre la Bible, lecture de Philippe 2, versets 25 à 30. Philippiens 2, versets 25 à 30. Donc c'est Paul qui envoie une lettre aux Philippiens. J'ai estimé nécessaire de vous envoyer mon frère Épaphrodite, mon compagnon d'œuvre et de combat, par qui vous m'avez fait parvenir de quoi pourvoir à mes besoins. Car il désirait vous voir tous, et il était fort en peine de ce que vous aviez appris sa maladie. Il a été malade, en effet, et tout près de la mort. Mais Dieu a eu pitié de lui, et non seulement de lui, mais aussi de moi, afin que je n'eusse pas tristesse sur tristesse. Je l'ai donc envoyé avec autant plus d'empressement, afin que vous vous réjouissiez de le revoir et que je sois moi-même moins triste. Recevez-le donc dans le Seigneur avec la joie, une joie entière, et honorez de tels hommes. Car c'est pour l'œuvre du Christ qui a été près de la mort, ayant exposé sa vie afin de suppléer à votre absence dans le service que vous me rendiez. Je vais vous demander un petit peu d'imagination maintenant. Imaginez que l'histoire d'Épaphrodite commence ce dimanche, un dimanche matin, à l'église de Philippe, ou ici. Alors je vais expliquer le contexte. Mardi de cette semaine, on s'est tous réunis, on a appris que Paul venait d'être incarcéré. Enfin, il était incarcéré, et ça depuis plusieurs mois. On s'est tous rassemblés. Et spontanément, on a prié. On s'est mis en jeûne. Et nous sommes en jeûne aujourd'hui, encore. On va continuer. Et c'est une chose terrible. Que faire? Où aller? On est dans la réflexion. On prie. Des paniers ont circulé pour des offrandes. On avait même ramené nos amis, des proches, pour être nombreux. Et on s'est séparés tard dans la nuit. Et aujourd'hui, ce dimanche matin, c'est le culte. On a loué le Seigneur. On a partagé le pain et le vin. Et puis, c'est le tour de l'orateur. C'est moi. Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Que la joie soit avec vous. Merci d'être là présent. Nous avons d'ailleurs pris une offrande. Non, pardon. D'abord, je voudrais vous parler de Paul. Comme vous le savez sans doute, Paul est injustement enfermé à Rome depuis plusieurs mois. Et nous avons pris une offrande pour lui. Et je tiens à vous remercier chaleureusement, chacun d'entre vous, d'avoir répondu avec autant de générosité. Je tiens aussi à vous encourager à continuer à prier et de jeûner pour ceux qui le peuvent, afin que Dieu entende nos prières. Hier, avec le conseil d'église, dans une prière, nous avons reçu un message de notre Seigneur Jésus qui était très clair. Il nous faut aller auprès de Paul pour lui apporter de l'aide et l'aide dont il a besoin. Nous lui transmettrons nos lettres, des vêtements, de quoi écrire et tout ce dont il aura besoin. À présent, nous avons besoin d'un bénévole pour aller à Rome, pour y rencontrer Paul et rester sur place pour le servir. Je tiens d'abord à vous donner quelques précisions importantes pour cette implication. Il s'agit d'abord d'un long voyage. On a compté 1240 km à peu près. D'après nos estimations, en plus de la traversée en bateau, il faudra compter environ 220 heures de marche, soit 40 jours de marche à pied à raison de 6 heures par jour. La personne volontaire devra transporter l'offrande sur lui. Si vous vous faites attaquer en chemin, résistez. L'offrande doit parvenir à Paul. Si vous tombez malade, accrochez-vous jusqu'à Rome. Je le répète, l'offrande doit parvenir dans son intégralité. Une fois arrivé à Rome, prendre contact avec les disciples de Paul. Acheter de la nourriture et des vêtements pour notre ami Paul. Vous serez au service de Paul. Un volontaire ? Un volontaire ? Là. Tout au fond de la salle, une main se lève. Tout le monde se tourne vers lui. C'est l'unique service, l'unique volontaire. Mais je vais faire des suppositions. Peut-être que on ne le connaît pas bien. On le voit peut-être parfois ranger les chaises ou passer le balai. Peut-être que personne ne lui a jamais vraiment adressé la parole. À vrai dire, c'est un illustre inconnu. En tout cas, rien dans les évangiles nous dit qui il est. Et le voilà, il arrive. Bonjour mon frère, quel est ton nom ? Épaphrodite. Et il a un grand sourire. Épaphrodite. Voici comment débute l'appel au ministère d'Épaphrodite. L'église de Philippe avait un besoin particulier, faire parvenir une offrande à l'apôtre Paul. Et Épaphrodite choisit d'y répondre. Il n'était ni prédicateur, ni apôtre, ni enseignant, ni évangéliste. C'était un chrétien anonyme dans l'église de Philippe. Un serviteur du type Philippiens 2, verset 14. Faites toutes choses pour Dieu, sans murmure, plainte, protestation ou hésitation. Épaphrodite incarne plusieurs principes et dynamiques, d'accomplissement de l'appel de Dieu dans notre vie. Le renouvellement, les risques, la reconnaissance et la résilience à notre appel. Ces quatre domaines dont je vous ai annoncé au début du message et que je développerai la prochaine fois. On va prier. Seigneur Jésus, par ton esprit, montre-nous ce qui fait obstacle à notre relation. Seigneur, enseigne-nous. Aide-nous à devenir l'homme ou la femme que tu souhaites que nous soyons. Apprends-nous à cultiver, à développer un cœur à ton image pour s'approcher de notre prochain. Aide-nous à réaliser tout le potentiel que représentent nos conversions. Aide-nous à te faire confiance, à croire et à saisir ta promesse que tu achèveras parfaitement ce que tu as commencé en nous. Permets-nous de combattre l'esprit de compétition, de rivalité, afin de prendre soin de notre prochain et que par ton action, faire grandir, élever notre prochain et nous-mêmes. Apprends-nous à être des êtres au service des autres, assumant nos fonctions et responsabilités. Jésus, nous te le demandons. Fais grandir dans nos cœurs tes sentiments. Amen.